Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition matinale du 12 mai 2014 en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique, ici à Washington. Au micro, Camille Gros-Didier avec Anne Arbetson. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
15 morts à Kinshasa, un match de foot ayant dégénéré. Le président français François Hollande souhaite un sommet cette semaine à Paris sur la stratégie de lutte contre Boko Haram.
La secte islamiste a enlevé plus de 300 lycéennes le mois dernier, un acte de terrorisme flagrant qui a choqué le monde entier.
Darina Naidoo nous en dira davantage et l'UNICEF s'alarme de la situation des écoles en République centrafricaine.
Plus de 65% des écoles sont toujours fermées à l'heure actuelle et bien sûr on a aussi trouvé qu'un tiers des écoles qui ont fait partie de cette étude ont été soit attaquées, soit endommagées.
On entendra Judith Léveillé, représentante adjointe de l'UNICEF en RCA. Et en Ukraine, les séparatistes pro-russes crient victoire après le référendum de dimanche dans deux régions. Et bien sûr, on retrouvera Bagassi Koura pour l'actualité sportive et Roger Muntou pour la musique. Mais avant tout, le journal. Tragédie en République démocratique du Congo. On signale au moins une quinzaine de morts et une vingtaine de blessés dimanche à Kinshasa. Un match de football opposant l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe au stade de Tata Raphaël ayant dégénéré. Tel est le bilan provisoire livré par un communiqué du ministère de l'Intérieur lu à la télévision nationale, précise notre station partenaire Radio Okapi. L'ASV Club et Mazembe s'affrontaient dans le cadre de la sixième et dernière journée du play-off de la Division 1. La rencontre s'est soldée par la victoire du club de Katanga sur celle de Kinshasa 1-0.
Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, se sont rendus dans trois hôpitaux de la capitale pour enquêter sur les violences. Monsieur Kimbuta a évoqué un bilan provisoire de 15 morts et de 21 blessés.
Le président français François Hollande souhaite un sommet cette semaine à Paris sur la stratégie de lutte contre Boko Haram. François Hollande a offert l'idée du sommet lors de sa visite à Bakou en Azerbaïdjan. Darina Naidoo.
La secte islamiste a enlevé plus de 300 lycéennes le mois dernier, un acte de terrorisme flagrant qui a choqué le monde entier. Certaines des jeunes captives ont retrouvé leur liberté, mais 276 sont encore entre les mains de Boko Haram. Les militants menacent de les vendre sur le marché. Pour Sarah Larouane, âgée de 19 ans, il n'y a pas de mots pour décrire cet enlèvement. « C'est trop terrifiant », dit-elle. Lawan a déclaré dimanche qu'elle est angoissée du fait que davantage de ses camarades de classe n'ont pas eu le courage de s'échapper. À Rome, le pape François a prié pour la libération des captives. Leur enlèvement, dit le premier ministre britannique David Cameron, fait partie d'une montée de l'islamisme extrémiste et violent, non seulement au Nigeria, mais aussi dans d'autres pays. Nous l'observons dans les problèmes qui se posent au Pakistan, dans d'autres régions de l'Afrique et au Moyen-Orient. Il faut dire également, pour être franc, qu'il existe ici, au Royaume-Uni. Il y a encore trop de soutien pour l'extrémisme et nous devons y faire face, a dit le Premier ministre britannique. La Grande-Bretagne et plusieurs autres pays, dont les États-Unis, ont envoyé des experts en renseignement au Nigeria pour aider à localiser les jeunes filles enlevées par Boko Haram. Mais le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, a déclaré que son gouvernement n'a pas l'intention de déployer des soldats sur le sol nigérian.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé d'intensifier sa collaboration avec le gouvernement du Nigeria pour lutter contre les activités terroristes transfrontalières de la secte islamiste Boko Haram. L'annonce en a été faite par Sonny Ugo, responsable de la communication de la CDAO. Il a précisé que la région du Sahel a récemment connu une forte hausse des crimes transfrontaliers et des actes de terrorisme qui, selon lui, nécessitent une étroite collaboration avec les autres organisations communautaires africaines, comme la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
Au moins 36 migrants sont morts et plus de 40 autres sont portés disparus dans le naufrage d'une embarcation de fortune qui a coulé mardi dernier au large de la Libye, a signalé la marine libyenne. L'embarcation a sombré à 4 km au large de Garabouli, une ville située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Tripoli, la capitale. Toujours selon les autorités libyennes, 52 migrants de différentes nationalités ont été secourus. Selon le témoignage des rescapés, l'embarcation transportait 130 migrants de divers pays africains.
Le Soudan du Sud pourrait avoir un gouvernement de transition dans les trois prochains mois, résultat de l'accord de cessez-le-feu signé la semaine dernière entre le président Salva Kiir et l'ancien vice-président et chef rebelle Riek Machar à Addis Abeba en Éthiopie. Selon un porte-parole présidentiel, le gouvernement de Djouba espère que les forces fidèles à Machar respecteront cet accord de cessez-le-feu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Camille Grosdidier avec vous. En Ukraine, deux régions du pays ont organisé un référendum sur l'indépendance. Pour rappel, l'annexion de la Crimée par la Russie a commencé par un vote similaire. Et Kiev, cette fois, a fait plus que condamner le scrutin. Chez Rubin Dorsil.
Des soldats de la garde nationale ukrainienne ont ouvert le feu sur une foule devant une mairie à Krasnoïarsk, quelques heures après avoir mis fin de force au référendum dans cette localité. Deux régions, Donetsk et Lugansk, qui représentent 15% de la population ukrainienne, ont organisé ce scrutin rejeté par Kiev et les puissances occidentales. Si certains ont choisi l'abstention, de longues files ont été observées hier devant plusieurs bureaux de vote. J'ai voté pour la République de Donetsk. Pourquoi ? Parce que je n'apprécie pas le travail que fait le gouvernement. Je souhaite vivre avec mes enfants dans un pays paisible. Tout le monde a vu ce qui se passe ici et ce qu'on montre à la télévision. Le président intérimaire de l'Ukraine, Oleksandr Turchynov, a averti les sécessionnistes que l'indépendance de ces deux régions serait un pas vers l'abîme. Il a lancé un appel aux rebelles pro-russes à négocier pour une plus grande autonomie de l'est du pays.
Un attentat à la bombe dans le sud de l'Afghanistan a fait au moins 5 morts et 40 blessés. Le climat de violence persiste alors que le pays se prépare au second tour de la présidentielle en juin. Des détails avec Bagassi Koura.
L'attentat revendiqué par les talibans a eu lieu dans la province de Kandahar. La plupart des victimes sont des civils, mais selon les autorités, la cible était un véhicule de l'armée. À Kandahar, la violence ne fait pas oublier la campagne électorale. Abdullah Abdullah, qui devrait affronter au second tour Ashraf Ghani, a reçu hier le soutien du candidat arrivé en troisième position, Zalami Rasoul. Rasoul, qui est considéré comme le favori du président sortant Hamid Karzai, dit que la raison principale de son soutien à Abdullah est d'éviter que l'issue de l'élection ne soit décidée sur des bases ethniques et régionales. Les deux hommes s'engagent à promouvoir l'unité nationale à travers un gouvernement de coalition. Les résultats officiels définitifs de la présidentielle du 5 avril seront communiqués dans 3 jours.
Le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Wahal, la plus haute autorité catholique romaine en Terre Sainte, a estimé que les récents actes de vandalisme israélien antichrétien empoisonnent l'atmosphère à l'approche de la visite du pape François en Terre Sainte du 24 au 26 mai. Des profanations se multiplient à l'encontre de lieux de culte chrétien et elles sont attribuées à des juifs extrémistes. Monseigneur Toile a regretté que ces actes fassent l'objet de condamnations, mais moins souvent d'arrestations et encore plus rarement d'inculpations. Sous l'appellation du « prix à payer », des juifs ultranationalistes ont intensifié ces derniers mois les agressions en réaction à des décisions gouvernementales qu'ils jugent hostiles à leurs intérêts.
Le président Hassan Rouhani a exprimé dimanche le souhait que l'Iran explique mieux son programme nucléaire afin d'éviter que des gens mal intentionnés ne trompent l'opinion mondiale à ce sujet. Il s'exprimait alors que les négociations sur le programme nucléaire iranien reprennent mardi à Vienne. L'Iran et les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie seront au rendez-vous pour tenter d'aplanir les divergences et sortir les négociations de l'impasse. Dans son allocution télévisée, M. Rouhani a déclaré que l'Iran n'acceptera jamais d'abandonner son programme nucléaire, ce qui reviendrait à un apartheid nucléaire.
Merci Anne Albertson. On vous retrouvera en fin d'émission. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix d'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier. L'UNICEF s'est alarmée de la situation des écoles en République centrafricaine. Dans un communiqué, l'organisation rappelle que cela fait 6 mois que les 2/3 des écoles sont fermées en raison de la crise que traverse le pays. De nombreuses écoles, affirme l'organisation, ont même été attaquées du matériel volé par les groupes armés. Chérubin Dorcy, l'adjoint à Bangui, Judith Léveillé, représentante adjointe de l'UNICEF en RCA.
Plus de 65% des écoles sont toujours fermées à l'heure actuelle. Et bien sûr, on a aussi trouvé qu'un tiers des écoles qui ont fait partie de cette étude ont été soit attaquées, soit endommagées par l'occupation des groupes armés qui sont passés, soit vandalisées ou vraiment pillées.
Tout est lié à la sécurité, non?
Vraiment, en Centrafrique, la sécurité, c'est la clé de voûte de toute action humanitaire, politique, enfin pour le développement. Il faut assurer une stabilisation du pays, une sécurisation des grands axes et des axes vers l'intérieur du pays pour qu'on puisse retrouver un minimum de retour à la normale. Et pour les enfants, c'est crucial parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, en fait, l'étude nous a démontré que depuis le début de l'année scolaire 2013-2014, il y a eu seulement 4 semaines où les écoles ont fonctionné. Donc on peut s'imaginer qu'un enfant qui n'a pas vraiment suivi un cursus régulier a vraiment une grande carence en termes d'apprentissage et il va vraiment falloir planifier le retour à l'école de façon précise pour permettre aux enfants de rebâtir sur de bonnes bases.
Et c'est l'avenir du pays qui est en jeu.
Tout à fait. La Centrafrique, c'est un pays très jeune. C'est la moitié de la population de 4,6 millions d'habitants qui est en bas de 18 ans.
Quels sont les effets sur le plan structurel, sur le système éducatif en général?
Il y a tout à refaire, tant au niveau de la révision du curriculum que de l'impression des manuels scolaires, les fournitures scolaires, l'équipement des écoles.
Apparemment, les enseignants n'ont pas été payés depuis plusieurs mois.
Oui, voilà, il y a eu d'énormes arriérés qui ont dû être réglés ces dernières semaines. Il faut voir à ce que les enseignants touchent leur salaire de façon régulière.
À quel niveau se situe l'intervention de l'UNICEF?
On travaille tant au niveau de la réponse immédiate, la distribution de kits, la formation des enseignants, le rééquipement des écoles, des discussions aussi sur le contenu du curriculum, puisque en Centrafrique, il y a tout à refaire au niveau de la qualité de l'éducation et de la mise à jour du curriculum pour que les enfants de Centrafrique puissent faire face aux grands défis du XXIe siècle.
Judith Léveillé, représentante adjointe de l'UNICEF en République centrafricaine.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Washington, il est 6h13, temps universel. On se tourne vers le Tchad. L'accord politique du 13 août 2007, signé entre les acteurs politiques tchadiens, était devenu caduque avec la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale issue des élections législatives de 2011. Et à l'initiative du président Idriss Déby, un autre espace de dialogue politique a vu le jour en avril 2013. Le CNDP, le cadre national de dialogue politique. À l'origine, le plus grand regroupement des partis politiques de l'opposition, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, le CPDC, avait refusé d'y faire son entrée. Mais voilà que c'est chose faite depuis quelques jours. Et François Tchekombe, notre correspondant à N'Djamena, revient sur les motifs de ce revirement de position.
L'entrée de la principale coalition de l'opposition politique, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution CPDC, dans le cadre national de dialogue politique CNDP. Nouvelle plateforme d'échange entre acteurs politiques tchadiens est le fruit d'une longue discussion entre la CPDC et le pouvoir. Selon la CPDC, c'est après que le pouvoir ait accédé à quelques-unes de ses revendications en 10 points, contenues dans un mémorandum qu'elle a accepté d'entrer dans le CNDP. Parmi ces revendications satisfaites, le nombre des membres du CNDP qui passe de 15 à 25, dont 5 postes accordés à la CPDC, la création d'un poste de facilitateur qui pourrait intervenir en cas de blocage, l'allocation d'une ligne budgétaire au CNDP, etc. Mais selon Gabriel Aligolor, un des membres de la CPDC entré dans le CNDP, il y a également des points contenus dans le défunt accord politique du 13 août 2007, non satisfaits qui doivent faire l'objet de discussions par le nouvel accord.
Il s'agit de la démilitarisation de l'administration territoriale et centrale, de de la dépolitisation de l'armée, du renforcement des capacités des partis politiques et des associations de la société civile, mais aussi des médias privés qui sont en première ligne dans ce que nous faisons et qui souvent manquent de moyens. Il s'agit essentiellement dans ces chapitres-là de faire en sorte que le CNDP puisse discuter de tous les problèmes qu'il juge importants et qui peuvent faciliter le bon déroulement du processus électoral. Et parmi ces problèmes, il y a le réaménagement du code électoral. En tout cas, le code électoral tel qu'il existe en ce moment n'est pas du tout adapté à notre pays. C'est un code électoral élaboré à la mesure du parti au pouvoir.
À quelques mois des élections générales au Tchad, chaque parti politique affûte ses armes. Mais la question essentielle de recensement biométrique n'est jusque-là pas élucidée. Aussi se demande-t-on si le président Déby, au pouvoir depuis 24 ans, va rempiler pour un cinquième mandat en 2016 ou non. N'Djamena, François Ndjikombe, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Camille Grodidi avec vous pour Le Monde aujourd'hui. Au Mali, après la création du ministère chargé de la réconciliation nationale, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient de nommer un haut représentant pour le dialogue inclusif entre les Maliens, en plus de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Tous ces instruments doivent permettre aux Maliens de se parler, de dialoguer entre eux pour une véritable réconciliation nationale, signale notre correspondant Kassim Traoré depuis Bamako.
La porte d'entrée de la réconciliation nationale est le ministère qui a été créé pour cela. Il s'est doté d'un programme de rencontres dans toutes les régions du Mali. Ataer Ag Iknan, secrétaire général du ministère de la réconciliation nationale.
La réconciliation, elle est nationale. Comme vous le voyez bien, le gouvernement a mis en place un ministère chargé de la réconciliation nationale. Ce n'est pas une réconciliation du Nord ou du Sud ou d'une partie du Mali. C'est une réconciliation de tous les fils du Mali. Tous les Maliens, où qu'ils soient, vont contribuer à cette réconciliation nationale.
Oui à la réconciliation, mais non aux anciennes pratiques. C'est du moins ce que pense Sidigué Askofaré de la société civile de Tombouctou.
Les tentatives que le gouvernement peut faire, c'est une bonne chose. Le véritable problème du Nord, ce sont les résidents qui sont à Bamako. Les gens qui se disent du Nord, qui sont à Bamako et qui sont là, qui répondent au nom du Nord. Parce que tant qu'on ne va pas à la base, prendre les gens à la base, venir discuter, ça n'ira pas.
Les Maliens, pour une fois, dans leur grande majorité, pensent qu'il faut la réconciliation nationale. Surtout les femmes, elles avancent des raisons.
Je m'appelle Djenebo Koulibaly. Ma mère est Soraï, mais mon père est Bambara. J'ai remarqué déjà qu'au niveau du Nord, il y a un métissage complet. Parce qu'il y a un métissage de Bambara, de Maraka, de Sounoufo, de tout. Nous sommes tous des Maliens. Nous avons conclu que nous devons nous demander pardon l'un et l'autre. Ce pardon-là, on doit le faire, oublier le passé, et ça nous permettra de sortir de cette crise s'il le faut. C'est ce que nous souhaitons aussi, vraiment.
L'équation Kidal reste à plusieurs inconnues, d'où la colère de cette ressortissante de la région de Kidal.
Moi, c'est Safiatou Sidi de Kidal. Nous, les gens de Kidal, on attend à ce que tout le monde contribue pour les problèmes de Kidal. Parce que les problèmes de Kidal, c'est un grand problème. Parce que toutes les régions ont été libérées, sauf la région de Kidal. Et on se demande pourquoi la région de Kidal n'est pas libérée. Vraiment, on préfère que la région de Kidal soit libérée ou équipée par l'armée malienne.
Reste à savoir si l'État malien, à travers le ministère de la Réconciliation nationale, pourra mener les mêmes activités qu'il a fait dans les régions de Tombouctou et Gao. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
6h19, temps universel, Camille Grodidi avec vous. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le ministère burkinabé du Commerce a initié une grande opération de contrôle des prix et de la qualité des produits de grande consommation. Je vous propose de suivre le reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouonogo.
19 produits soumis à une réglementation des prix font l'objet de contrôles depuis quelques jours et ce, durant toute cette année, par le ministère en charge du commerce du Burkina. Suivant Abdoulaye Koulibaly, le directeur de la concurrence et de la répression des fraudes sur la nomenclature des produits concernés et le mode opératoire de contrôle.
Il s'agit du riz, des autres céréales locales, c'est-à-dire le mil, le sorgho, le maïs, les huiles alimentaires, la graine de coton destinée à la production de l'huile alimentaire, les intrants agricoles, les produits phytosanitaires, le sucre, la farine de froment, le pain, le lait et les produits de la laiterie, le savon, le ciment, les fers à béton, les tôles, les hydrocarbures, les médicaments essentiels génériques, les tarifs publics, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les articles scolaires et enfin les tabacs. Une fois dans la boutique, alors on regardera si dans la boutique, le boutiquier a indiqué les prix de ses produits. Ça peut être un tableau sur lequel on indique les prix, tout ça. C'est le mot de publicité des prix qu'on doit pouvoir voir sur le terrain. Maintenant, après, il s'agit de voir si le boutiquier détient un titre. Le titre, c'est quoi? C'est la facture. Il a des produits de sa boutique. D'où viennent ces produits-là? Il les a achetés où? Parce que tout cela te permet de connaître la traçabilité du produit. Et lorsqu'il vend, pour certains, il faut délivrer une facture. Alors, on va demander à voir les factures de vente. Alors, ces factures de vente nous permettent de savoir si certaines règles ont été respectées.
Que pensent les consommateurs burkinabés de ce contrôle?
Je pense que ce contrôle permet quand même, si je dis dénoncer, entre griffes, ces commerçants qui ont tendance à majorer un temps soit peu le prix pour grignoter quelque chose sur le prix réel. Je pense que ce contrôle de prix vient à point nommé.
Nous sommes contents du contrôle, mais les prix là ne sont pas diminués encore. Nous allons demander au gouvernement pour qu'il coince les commerçants à diminuer le prix là.
La coalition contre la vie chère, une organisation de la société civile burkinabé, tout en saluant ces contrôles, demande de la vigilance et de la fermeté. On écoute Sidiki Dramé, membre de la coordination de la coalition contre la vie chère.
Il ne faut pas que ce soit des opérations de charme pour juste faire croire que bon, les contrôles sont faits. Les consommateurs aimeraient vraiment qu'il y ait une conséquence. Et l'autre fait qu'il faut souligner, c'est qu'au niveau de la lutte contre la vie chère, c'est vraiment un ensemble de mesures. Par exemple, on a parlé des boutiques témoins où certains denrées quand même à grande consommation devaient être mises en vente. Mais souvent, cela n'est pas suivi aussi et on a du mal à trouver même les boutiques témoins.
Nous avons alors répercuté la préoccupation de la coalition contre la vie chère, à savoir les sanctions contre les contrevenants au directeur de la concurrence et de la répression des fraudes, Abdoulaye Koulibaly.
La loi prévoit un ensemble de sanctions. Il peut s'agir des sanctions pécuniaires, le paiement d'une amende. Il peut aussi s'agir, en fonction de la gravité, de peines privatives de liberté. La sanction peut aller jusqu'à la fermeture de la boutique. Généralement, en tout cas, c'est les peines d'amende. La loi nous fixe une amende allant de 5 000 francs à 5 millions de francs. Pour certaines infractions, la peine peut aller jusqu'à 10 millions de francs.
Un numéro vert, le 80 00 11 84, est ouvert au public pour dénoncer les commerçants véreux. Zoubana Bounogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
On enchaîne avec les sports. Présentation Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Camille.
Tragédie à Kinshasa. On signale au moins une quinzaine de morts et une vingtaine de blessés dimanche quand un match de football opposant l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe au stade Tata Raphaël a dégénéré. Tel est le bilan provisoire livré par un communiqué du ministère de l'Intérieur lu à la télévision nationale, précise notre station partenaire Radio Okapi. L'AS Vita Club et Mazembe s'affrontaient dans le cadre de la sixième et dernière journée du play-off de la Division 1. La rencontre s'est soldée par la victoire du club du Katanga sur celle de Kinshasa 1-0. Les Corbeaux ont décroché un nouveau titre de champion de République démocratique du Congo, vainqueur de Don Bosco à Lubumbashi. Sanga Balende a terminé deuxième. Et puis, Bagassi, il y avait un match amical ce samedi à Ouagadougou.
Oui, dans le cadre des éliminatoires de la CAN junior, les Aiglons du Mali ont battu les Étalons juniors du Burkina Faso par le score sans appel de 3-0. Le compte-rendu de Salif Kabore.
3-0, le score est lourd et il faut remonter dans les années 90 pour se rappeler d'une telle défaite infligée aux Burkinabés dans la cuvette du stade du 4 août de Ouagadougou. Les 15e, 26e et 82e minutes ont été les temps forts de la rencontre chez les Aiglons du Mali et c'est le virevoltant Salou Guindo qui a fait trembler les cages burkinabés à 3 reprises.
Je ne m'attendais pas à ça vraiment. Je m'attendais à 1 ou 2 buts comme je l'avais si bien promis à mon président. Je l'ai promis que je vais marquer et puis je l'ai si bien fait. Donc je remercie le bon Dieu pour ça.
L'entraîneur des Étalons juniors affirme qu'il assumera toutes les conséquences. Sidi Napo.
Ma responsabilité est engagée du temps que qu'on perd 3-0. Parce que c'est moi qui ai fait les choix, j'ai pris les joueurs qu'il fallait et je prends toute la responsabilité, je ne la mets pas sur les joueurs.
La rencontre a été littéralement dominée par les Aiglons et pour l'entraîneur malien, c'est le mental qui a joué. Farayiri Diara.
Je pense que dans le déroulement, ça s'est senti au niveau du comportement et des jeunes tout le long de la rencontre.
Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
En football, hier, c'était le Championship Sunday en Angleterre.
Oui, c'était le dernier jour de la Premier League et l'Ivoirien Yaya Touré, 31 ans, a été sacré ce dimanche champion d'Angleterre avec son club Manchester City qui remporte ce titre pour la quatrième fois de son histoire. Lors de leur dernier match du championnat, donc, Touré et ses camarades ont battu West Ham 2-0. On devra retrouver Yaya Touré aux côtés des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la Coupe du Monde qui commence en juin au Brésil. Et puis en NBA, suite des demi-finales.
Menés de 22 points après un premier quart raté dimanche, les Clippers de Los Angeles ont réussi un tour de force en égalisant 101-99 face au Thunder d'Oklahoma City grâce à une fin de match de délire. Darren Collison a marqué 18 points lors de ce quatrième match de la demi-finale de l'Association de l'Ouest. Les 40 points marqués par Kevin Durant pour Oklahoma n'ont pas suffi. Par ailleurs, les Indiana Pacers ont toujours l'avantage face aux Wizards de Washington. Ils ont remporté hier soir le match 4 des playoffs de leur division sur le score de 95-92. On passe à la page musicale avec Roger Muntu. Salut Roger.
Bonjour Camille, de la chorale à la cathédrale de Ouagadougou à Abidjan, hein, en passant par Bamako et plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine, Martin Terry, l'enfant de Imasgo, une localité située dans les environs de Koudougou à environ 100 km de Ouagadougou au Burkina Faso, poursuit sa carrière musicale présentement aux États-Unis d'Amérique. Nous l'avons eu au téléphone.
Ah oui, bah, écoute, ça fait un bout de temps que je suis aux États-Unis, donc l'album est sorti, l'anglais est sorti en 2013 au Burkina Faso où j'y étais. Et maintenant, je suis là personnellement puisque je suis en train de travailler avec CDBB pour la sortie de l'album au niveau des États-Unis.
Alors Martin, nous allons écouter Les Îles Canaries.
Les Îles Canaries, c'est un morceau dédié à Madou, un monsieur que j'ai rencontré puisque moi aussi, dans les années 90, j'ai essayé de passer par les Îles Canaries pour rejoindre l'Europe. Et malheureusement, j'ai rencontré un Guinéen, un étudiant guinéen qui était en quête du travail chez lui et qui n'a pas marché, qui s'appelait Mamadou. Et lui, il a eu la chance d'abord, avant moi, de prendre le bateau pour l'Europe, l'Espagne, l'Italie. Et voilà, et le bateau a eu un naufrage au niveau de l'île Canarie et il est décédé. Et voilà, cette chanson, île Canarie, c'est une chanson dédiée à Madou et à tous ces Africains qui, chaque jour, brandissent les eaux pour voilà, être de l'autre côté, croyant que c'est l'Eldorado, l'Occident. L'île Canarie s'est devenue comme une prison, et parce que c'était un camp de rétention, mais malheureusement c'est des prisons et que des milliers d'Africains sont basés là-bas jusqu'à aujourd'hui. Ils ne peuvent plus repartir en Afrique, ils ne peuvent pas avancer, aller en Occident. Donc cette chanson est dédiée à tous ces guerriers.
Parce qu'il n'en pouvait plus, diplômé dans ses états corrompus. Il est parti parce qu'il n'en voulait plus d'être accroché à ses pouvoirs fourbus.
Martin Terry, Les Îles Canaries, merci Roger.
Happy Monday Camille et un grand coucou à tous les amis qui écoutent le RM Show à Ouagadougou.
Vous retrouverez Roger Muntu dans le RM Show ce soir à 20h, temps universel. C'est la fin du monde aujourd'hui qui était présentée par Camille Gros-Didier et Anna Butson. Merci à toute la rédaction. Chers auditeurs, très bonne journée et à bientôt sur La Voix de l'Amérique.
Il a voulu partir sur Paris.
Dernière nouvelle en Afrique,
Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.